Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à tout le monde. On va ouvrir notre Bible. Et je vous propose deux lectures. Une première que nous allons faire dans 1 Thessaloniciens. Alors, 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Et au verset 21. Alors, première lecture de notre méditation, 1 Thessaloniciens 5, verset 21, « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Jacques, maintenant, chapitre 1er, verset 16. Jacques, épître de Jacques, chapitre 1er, verset 16. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. » Voilà que le Seigneur nous conduise dans cette découverte, ce ne l'est pas pour beaucoup d'entre vous, parce que c'est un texte que vous connaissez. Mais j'aimerais donner une orientation à notre méditation. En ce qui concerne, nos émotions, nos sentiments et nos impressions. Ça fait partie du fonctionnement humain. Dieu nous a fait dans un corps, il nous a doté d'une âme, et c'est précisément cette âme. Elle est vivante et elle réagit avec des émotions, avec des sentiments et avec toutes sortes d'impressions. Et qu'est-ce que nous devons penser de cela? Parce que nous sommes sous l'influence de nos réactions physiques, charnelles, c'est-à-dire la partie basse de l'individu, nous pourrions dire, primaire de l'individu. Et puis nous sommes aussi soumis à des impulsions ou à toutes sortes de ressentis qui viennent de l'esprit. Et notre cœur, notre âme se trouve au milieu. Et bien des chrétiens sont venus nous voir en disant ou en nous racontant leur petite histoire et en nous disant « Mais voilà, je vis ceci, je ressens cela, j'ai cela au fond du cœur ». J'ai rêvé de ceci. D'ailleurs, ça va beaucoup plus loin qu'on le pense. Et j'aimerais avoir un petit éclaircissement parce que est-ce que je dois prendre cela pour argent comptant? Est-ce que véritablement ça vient du Seigneur? Ça vient de moi-même ou ça vient de je ne sais où? Alors, toute la question est posée ce matin à travers cette méditation dans ce texte. Il y a ce que j'appellerais, et vous le savez, la volonté de Dieu et nos états d'âme. Et ça, c'est important parce qu'on peut faire des erreurs énormes avec cela. On peut juger, On peut critiquer, on peut mépriser, on peut se mettre en colère, on peut finalement être anéanti, découragé. On peut avoir finalement là, eh bien, des réactions qui sont toutes bonnes dans un certain sens ou toutes mauvaises. On peut se méprendre. Parce que, franchement, on n'a pas la science infuse. Et on ne sait pas tout. Et déjà, on a du mal à comprendre les autres, mais est-ce qu'on se comprend soi-même? C'est encore une autre interrogation. Donc, nos états d'âme, nos impressions. Comment faire, mes frères et sœurs, la différence? Et c'est en cela que l'on peut juger d'un homme ou d'une femme spirituel, fait en Jésus-Christ, mature. Et on travaille à ce que nos vies deviennent, pour la gloire de Dieu, des vies matures. Il y a quelques secrets pour ne pas nous tromper entre ce que Dieu veut et moi ce que je veux. Entre ce que Dieu veut et mes sentiments, mon ressenti, parfois des émotions fortes. Ou alors, c'est peut-être plus difficile, des émotions ou des impressions qui sont d'une grande... qui sont très, très fugitives, très vagues, auxquelles je ne prenne pas attention. Et quelquefois, le Saint-Esprit nous parle, non pas à travers des choses très fortes, mais à travers des choses très douces. Vous vous souvenez d'Élie, le souffle dans le rocher. Et quelquefois, nous, chrétiens de Pentecôte, on s'attend à ce que vraiment le plafond nous tombe sur la tête. On se dit, si Dieu me parle, eh bien, il va y avoir... Bon, on va pouvoir traverser la Loire à l'estuaire à pied sec. Hein. On a fait un pont, c'est fait pour ça. Alors voilà, toute la question se pose. Et c'est important qu'on en parle, mes frères et sœurs. Parce que on peut être dans le ton, dans la bonne note, mais on peut être totalement à côté, tout en pensant qu'on a des convictions, et que finalement, eh bien, c'est ça parce que moi je ressens ça. Je voudrais vous rappeler une chose, c'est que la foi, ce n'est pas tant le ressenti que la conviction intérieure de ce qu'on ne voit pas, de ce Dieu qu'on ne voit pas et qui a fait des promesses. On n'est pas des Thomas qui dit et qui déclare « Si je vois, je croirai, si je sens, eh bien Seigneur, je suis ». Mais on est des gens qui finalement, qui avons bien compris la leçon du Seigneur quand il nous dit ceci, et quand il le dit à Marc, si tu crois, tu verras, tu ressentiras, tu vivras, tu seras porté, je te mènerai, je te conduirai, je t'enseignerai, j'aurai les regards sur toi, vous connaissez la citation. Il y a un facteur très important dans ce que nous allons dire, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, comment me parle-t-il? Ah, voilà. Le Saint-Esprit se propose de manière personnelle et intime de me persuader, de me diriger, il vous conviendra de, vous connaissez, hein, de me diriger dans ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et je ne dis pas de bien, de bon, de juste, de vrai, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Mais dans toute cette panoplie de grâce et de cette volonté merveilleuse de Dieu, c'est de me donner le meilleur. Alors entre le bon et le meilleur, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce qui va m'aider à faire la différence entre le bon et le meilleur? Entre ce qui est bien, juste, et ce qui est le juste bien et la justice de Dieu? J'espère que je ne vais pas vous confondre avec tout ça. Hein, parce que... Mais c'est des ressentis. Ce sont des choses que nous vivons tous les jours. Parce que vous êtes soucieux de faire la volonté de Dieu. Et vous avez besoin peut-être d'avoir un petit peu d'éclairage, une grande décision à prendre. Eh bien, vous êtes... c'est normal que le Seigneur vous conduise, vous lui avez demandé, il va vous conduire. Mais il faut aussi comprendre les mécanismes et certains principes spirituels, je dis bien. Le problème de toujours, c'est qu'il est souvent difficile de distinguer ce qui vient de Dieu et les autres et nombreuses voix intérieures. Parce qu'il n'y a pas que Dieu qui parle dans le monde, hein. Dans notre vie, dans notre univers à nous, les hommes. Il n'y a pas que la pensée, il n'y a pas que Dieu qui parle. Quelquefois Dieu parle, mais quelquefois il garde le silence. Quelquefois il y a toutes sortes de bruits qui sont contradictoires autour de nous. Et on les amalgame à la fois en se disant, ben oui, mais c'est la voix de Dieu parce que j'ai entendu, j'ai reçu, j'ai fait ceci, j'ai... Oui, d'accord. Et non seulement d'autres voix se font entendre, mais elles s'entremêlent. Un jour c'est d'une manière, un jour c'est d'une autre, et on ne sait plus où on en est rendu. D'abord, je vous dirais qu'il y a les impressions que nous nous créons nous-mêmes. Oui, ça peut arriver. Nos pensées sont influencées par nos états, que j'appellerais physiologiques et psychologiques. Je vais vous donner des exemples, et les exemples des choses que nous vivons dans l'instant. Il y a le rôle de la fatigue, par exemple. Quand on est fatigué, surtout psychologiquement, la dépression, ne prenez jamais une décision quand vous êtes en déprime, parce que vous aurez peut-être à le regretter, parce qu'on n'est pas forcément bien. Et ça, c'est difficile, il vaut mieux attendre que les choses se passent. Il y a quelquefois les impressions que l'on a dans le stress. Et le stress, c'est terrible, hein, parce qu'on n'est pas non plus en état. On est pressé, on est surbooké, on peut prendre des décisions très 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 mauvaises. Il y a le rôle du manque de sommeil. Vous allez me dire, oui, bon, ça c'est pas biblique. Attendez, laissez-moi finir ce que j'ai à dire. Parce que vous allez voir que on n'est pas des extraterrestres. On vit sur la Terre. Et le Seigneur, c'est lui qui nous a créés sur la Terre. Alors il faut tenir compte aussi de certains facteurs. Parce que quand on veut monter très haut, on descend quelquefois très bas. On n'est pas des anges, on est des hommes. Mais des hommes qui appartiennent au Seigneur. Des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit et nous voulons l'être. Mais nous vivons sur la Terre. Alors ça ramène peut-être les choses à une certaine proportion, dans certaines limites. Le rôle de la fatigue, le rôle du stress, le rôle de manque de sommeil, le rôle de la maladie. Vous savez pourquoi ? Parce que Paul nous dit que nous sommes des vases d'argile. Et pourtant, nous portons un trésor d'une grande valeur. Par exemple, quand je suis fatigué, je suis plus sensible au découragement, à l'impression d'échec, à être négatif, même devant le meilleur. Il y a des gens qui, quelquefois, vous leur montrez le meilleur, parce qu'ils sont dans un état d'esprit qui n'est pas forcément bien, bien calé, excusez-moi de dire cela, mais les autres diront, mais c'est bien, c'est formidable, ils se réjouiront, et l'autre diront, non, non, c'est pas ça, je crois que c'est pas ça. Et même, peut-être, on vous donnerait une impression en disant, mais non, ça vient pas de Dieu. Impression. Alors que peut-être d'autres vous diront, mais oui, mais moi je crois que si, c'est ça. Qui a même une certaine négativité. Lorsque nous sommes fatigués, il est plus difficile de repousser les diverses impressions de notre âme et du même coup de choisir, de décider, et ça devient confus. Et malheureusement, il y a des frères et des sœurs qui sont dans un désert et qui tournent en rond parce qu'ils ne sont pas au point au niveau de leur âme. Ils se laissent emporter par les vents, par les flots de la mer. Vous savez ce que nous dit Jacques, hein, balloter de droite et de gauche. Et pourtant, le Seigneur nous dit, enfin, Jacques nous dit, il nous dit, mais si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande, s'il manque de foi, mais qu'il la demande, nous sommes finalement à disposer de toutes ces choses. Tout devient confus. La volonté de Dieu est le rêve. J'ai souvent entendu des enfants de Dieu qui sont venus me dire, perplexes, j'ai fait un rêve. Alors, ils viennent me dire, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, pour interpréter, je peux vous dire que je sors ma boule de cristal. Mon jeu de cartes. Et je me mets au travail. Non, attendez. Les rêveries. Et il y a des rêveries chez les enfants de Dieu. Oui ? Vous savez ce que la Bible pense des rêveries ? Dans Jude, il nous est dit ceci au verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, injurient les gloires. Eh oui. Vous rendez compte, Jude nous dit que des hommes entraînés, je retiendrai que ça, par leur rêverie. Le rêve a deux utilités, mes frères et sœurs. Il reflète l'accomplissement de nos souhaits inconscients. Inconscient. Et si vous voulez la réponse dans Ecclésiaste, eh bien, il nous est donné la réponse à cette question ou à cette affirmation. Au chapitre 5 et au verset 2, il est dit ceci. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Écoutez bien. Les songes qui naissent de la multitude des occupations. Ça nous est tous arrivé d'avoir des préoccupations, des occupations, toutes sortes de choses qui nous ont influencés dans la journée ou dans la semaine. Et quelquefois, eh bien, ça continue la nuit, vous comprenez? Attention! On peut en déduire des choses et qui ne sont pas forcément venant de Dieu. Dieu a parlé à travers les rêves. Et il a parlé même à des païens comme Pharaon, comme le roi de Guérard, etc., etc. Eh oui. Et à Nebuchadnezzar, à Belshazzar, enfin, voilà, toute la compagnie. Il parle aussi à des enfants de Dieu, mais ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est qu'il ne faut pas aller trop vite. Et on a vu des frères et des sœurs qui sont partis vraiment dans le fossé. Mais je dis bien dans le fossé, mais alors tout droit, hein. Parce que, au lieu de suivre ce que le Seigneur voulait leur montrer, ils sont partis à chevaucher sur toutes sortes de choses qui finalement n'avaient aucun fondement spirituel et qui n'étaient que le produit du travail de leur âme, de leur inconscient, de leur subconscient et de leurs occupations, et puis aussi quelquefois de leurs désirs, bien sûr. Je dirais que le rêve extériorise les inquiétudes et les tensions récentes. Avant d'en tirer les conclusions envisagées comme venant du Seigneur, surtout comme venant du Seigneur. Si vous dites « j'ai fait un rêve, c'est moi qui ai fait le rêve », pas de problème, ça ne dérange personne. Mais si vous dites « j'ai fait un rêve et il vient du Seigneur, et ça correspond tout à fait, et ceci et ce et cela », alors je dirais, pour être sage, je dirais que tous les rêves doivent être confirmés par d'autres informations pour en apprécier la provenance, la nature et la validité, mes frères et sœurs. Attention de ne pas sauter sur tout ce qui bouge. Et on a vu des frères et des sœurs qui ont sauté tellement sur tout ce qui bougeait qu'ils ne sont plus au milieu de nous aujourd'hui. Non. Alors, ils ne sont plus dans la trajectoire, ils ne suivent plus le Seigneur. Parce que vous savez, dans le monde de l'occulte, dans le monde de la magie, dans ce monde ténébreux, dans ce monde d'inspiration, eh bien, c'est précisément, finalement, un des moyens dont l'autre se sert. Et s'il peut vous entraîner, croyez bien que s'il entraîne des millions et des millions de gens en dehors de l'Église, il ne va pas se gêner de le faire aussi avec nous. Si ça marche ailleurs, ça peut marcher aussi. C'est pour ça que Jésus a dit « Restez enracinés en moi ». Parce que c'est le seul moyen pour être garanti. Alors, vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions. C'est ce que nous dit le livre de Job au chapitre 33, vous pourrez le relire. Mais mes impressions sont-elles simplement un appel très subjectif à ce que j'ai envie de faire ou ce que j'ai envie d'entendre? Là, c'est une autre question. Vous savez, j'ai tellement envie de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Dans le domaine du travail, dans le domaine économique, dans le domaine sentimental, affectif, dans le domaine même, eh bien, d'une certaine vocation peut-être pour Dieu. Mais j'ai tellement envie. Eh bien, vous savez, je suis déjà pré-orienté, avant d'être désorienté, mais je suis déjà préparé à ne vouloir entendre que ce qui va me plaire. Ce qui va aller dans mon sens, et à ne voir que ce que je veux voir, ce que j'ai envie. Donc, ce n'est pas le Seigneur qui va me conduire, ce sont mes envies qui vont me conduire. Et je prendrai, excusez-moi, je vais être un petit peu vulgaire, je peux prendre à ce moment-là des vessies. Connaissez la suite. Quand on désire ardemment une chose, on peut alors improviser tous les scénarios possibles et inimaginables qui correspondent à ce moment à toutes mes envies. Mais oui, vous allez me dire c'est de la psychologie humaine. Oui, eh bien oui, c'est de la psychologie humaine. Mais la psychologie humaine, quand elle est conduite et dirigée et orientée et renouvelée par l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est bien une bonne psychologie. Parce qu'on n'est pas en dehors d'un corps. On a une âme. Et combien de gens ont été au fossé avec ça? Combien de divisions dans les églises pour ceux qui se sont pris pour le pape? Ah, pour le pape. Alors toutes mes envies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, innocentes ou coupables, attention, il y a danger, en vous trompant par de faux raisonnements, nous dit l'apôtre Jacques. On a lu le texte. Ne vous bornez pas à l'écouter la parole en vous trompant par de faux raisonnements. Et on peut se faire tous les raisonnements qu'on veut quand on a envie que ce soit comme ça. Et ce n'est pas de la soumission, c'est de la révolte contre Dieu. C'est triste, hein? C'est triste, cela. Autre voie intérieure, c'est celle de l'adversaire. Alors, c'est intéressant, parce que je vous ai dit qu'il n'y avait pas Dieu qui parlait. Dieu parle, moi, je me parle à moi-même, j'ai des conversations avec moi. Et puis, il y en a un autre aussi qui souffle pour essayer de me dire, « Eh bien, tu sais, tu vois, tu es dans la souffrance. Eh bien, écoute, tu vas sur la plage là, de Saint-Nazaire. Si tu as faim, tu changes les galets en pain. Et puis, tu sais, tu es quand même un homme extraordinaire et formidable. Ta place n'est pas là. Elle devra être dans d'autres, beaucoup plus en valeur, beaucoup plus en évidence. Alors, tu vois, tu viens avec moi, nous dit l'autre. Je te montrerai tous les royaumes et la gloire de cette... Voilà. Mais tu sais, si tu m'adores et si tu te prosternes, vous connaissez hein, ça aussi. Hein. Ou alors, si tu veux, tu montes sur le clocher de l'église du centre évangélique à Saint-Nazaire et tu te jettes en bas et tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas te retrouver dans une poubelle. Parce qu'il y en a partout dans notre rue, là. Eh oui! Parce que, vous savez, si Jésus y est passé, n'allez pas vous faire d'illusions, vous allez y passer aussi, hein. La voix de l'adversaire, dont nous sommes avertis dans 2 Corinthiens, quand l'apôtre Paul, homme averti ô combien, recevons la pensée de Dieu, quand il nous dit ceci au chapitre 11 et au verset 14, il nous dit tout simplement, « Mais n'est-ce pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière ?» Et il va venir en disant, « Ah ouais, il vient avec la Bible lui, hein, il vient avec l'Évangile. » Il vient avec la connaissance que nous avons, nous, et il va s'en servir. C'est pour ça qu'il nous faut vraiment être imprégnés de la connaissance de la parole de Dieu. Mais pas une compréhension légaliste, pas une compréhension formelle, une compréhension où la parole de Dieu a été renouvelée par le souffle de l'Esprit. Parce que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Parce que là, il sait faire. Hein. En matière de loi, oulala, c'est un juriste hors pair. Hein. Il sait prendre l'écriture et puis la traficoter, mélanger des versets, en enlever, en rajouter, tout cela. Et celui qui y va à franco là-dedans, eh bien, je peux vous dire qu'il va se ramasser. Hein. Ça, c'est clair. Mes frères, je vais vous le dire encore une fois de plus, ce n'est pas mon frère, ma sœur, l'homme qui est mon ennemi. C'est l'adversaire, c'est le diable. Parce qu'il est méchant, il est subtil, il est rusé, il est farouche, il est cruel. Tantôt, il est loup ou lion, rugissant, parce qu'il vient avec des impressions de peur. Tantôt, il est serpent, avec des impressions de faire confiance. Oui, il essaie d'attirer la confiance, mais il est trompeur, il est meurtrier, il est dragon, il est mauvais, il est menteur, il est malin, il est le prince des démons et la prince de puissance de l'air. Bon, j'arrête là-dessus parce qu'on n'en a pas assez parlé de lui. Mais c'est ça. Jésus nous dit qu'il est le père du mensonge. Et ça, je m'arrête là-dessus. Il est le père du mensonge qui a gagné sa redoutable réputation aux dépens de ceux qu'il a séduits. Et parmi ses subterfuges, l'exploitation à outrance et astucieuse des impressions humaines, le sentimentalisme, les émotions de l'âme, l'univers des sensations, les affectivités, les passions, les différentes formes de la sensualité. Et je peux vous dire qu'il a beau rôle. Vous avez entendu un peu comment je relis, hein, parce que c'est quand même important de le redire. Écoutez, l'exploitation à outrance de toutes nos impressions humaines, le sentimentalisme, les émotions de l'âme, l'univers des sensations, les affectivités, les passions, les différentes formes de la sensualité. Et il souffle. Et il sait très bien que nous sommes que chair. Et il sait très bien que de toute manière, ben, même pardonner, 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 et pardonner, et repardonner, on reste encore, finalement, dans un corps fragile, un corps vulnérable, un corps sensible, parce que nous avons des besoins, et les besoins, le Seigneur les connaît, il veut y répondre, mais lui, il veut détourner nos besoins pour nous attirer à lui, et nous prendre au piège. Il ne faut jamais oublier le but de cet adversaire, qui reste toujours le même, confondre les hommes, les égarer et les ruiner. soit par la jouissance ou par la jouissance. Job était un homme qui était très considéré en Orient. Il avait tout ce qu'il voulait. Et ça n'a pas plu à l'adversaire. Et un jour, il est venu voir Dieu. Il lui a dit, écoute, ton Job, moi je ne le supporte plus. Il est pieux, il est intègre, il est droit. Tu me laisses un petit peu lui mettre la main sur le dos. Et là, après, c'est toute une cascade. Et pourtant, Job a dit, eh bien, Dieu a donné, Dieu a repris. Et il nous a dit qu'il n'est sorti aucune parole de sa bouche. Et il en a eu des impressions. Des impressions physiques, des impressions morales, des impressions sentimentales quand il a perdu ses enfants et sa femme. Et puis de toutes sortes d'impressions spirituelles aussi. Il a tenu le coup. Il a tenu le coup. Mes frères et sœurs, il nous faut un peu plus de perspicacité spirituelle. Et un peu plus de clairvoyance. On est dans un combat spirituel. Et attention à ce qui se passe à l'extérieur, mais attendez aussi attention à ce qui se passe dans nos cœurs et dans nos âmes, dans nos pensées, dans notre imagination et toutes sortes de choses. Il y a une belle prière que nous pouvons faire tous les jours. Elle est inspirée, je pense. Seigneur, je te remets mon corps, je te remets mon cœur, je te remets mon âme et je te remets mon esprit. Et je me crois à ce moment-là en sécurité en toi. Je verrouille pour que l'autre ne vienne pas, et pourtant, combien de fois il arrive à passer Parce que ce n'est pas une formule, ce n'est pas une prière dite et redite, c'est un désir profond du cœur et sincère que j'appartienne, à partir de tous les matins qui commencent pour moi, que j'appartienne au Seigneur. Et je me fais rouler encore. Quand je cherche la volonté de Dieu dans la prière, écoutez bien parce que ça nous concerne, est-ce que le diable peut me confondre précisément à ce moment-là? Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Quand je cherche Dieu, sincèrement, dans la prière, est-ce que le diable peut me confondre à ce moment-là? Oui ou non? Eh bien, moi, je vais vous dire oui. Ah oui, je suis surpris, mais il peut précisément quand je m'approche de Dieu. Parce que mon approche de Dieu le dérange. Et là, pourtant, je suis dans un endroit, dans un sanctuaire qui est le mien spirituel. Ouais. Souvenons-nous que c'est souvent quand nous sommes proches de Dieu, quand nous sommes proches à recevoir les réponses et les indications de Dieu par le Saint-Esprit ou par sa parole, que l'adversaire attaque. Lui, il met le paquet. Ah oui. Là, il va sortir la grosse artillerie à ce moment-là. Parce que je suis dans une activité spirituelle qui me rapproche de Dieu. Je suis dans une proximité avec mon Seigneur. Et là, à ce moment-là, eh bien, on va voir ce qui va se passer. Écoutez bien, parce que vous l'avez tous vécu. Il y a quelque chose qui gêne le diable, c'est quand un enfant de Dieu élève sa voix vers le ciel, dans la foi, naturellement, avec foi. Qui n'a pas ressenti, dans les moments de prière, des impressions bizarres? Alors on se dit, je vais prier, je suis heureux de prier. Nous sommes heureux de prier ensemble, même dans les réunions collectives. Je suis heureux de prier avec mon épouse. Alors je tiens vraiment là à avoir ce moment, parce que c'est un moment, c'est de rafraîchissement, c'est bon pour moi, et puis on sert le Seigneur à ce moment-là. Alors ces impressions bizarres, des fatigues subites, d'un seul coup ça vous arrive, pouf, vous êtes en pleine forme, vous commencez à prier, pouf, d'un seul coup vous êtes complètement anéanti. Allez. Vous êtes à prier le matin de bonne heure, vous avez passé une bonne nuit, et d'un seul coup, vous avez une somnolence qui vous arrive dessus. Ça vous est jamais arrivé? Vous commencez à lire votre Bible en disant, « Oh là là, je ressens quelque chose de bizarre. » Parmi tous les autres dérangements, le téléphone qui sonne, enfin bon, toutes sortes de choses. Ça c'est. Alors des téléphones, on en a partout maintenant. Ça sonne dans tous les coins. Ce peut être une impression, pas une impression, mais un ressenti de crainte qui monte. D'un seul coup, vous avez une pensée qui vous vient, qui vous contrarie, qui vous apporte une contrariété. Il y a une crainte, une peur incontrôlée qui arrive à ce moment-là. Et vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive Non, c'est, je suis à côté de... Ça va, non? Vous le sentez? Vous le sentez pas, mais... Vous le sentez pas, mais vous l'avez vécu, ça. Vous l'avez vécu. Quelquefois, il vous arrive un complexe en disant « Mais je ne vaux rien. Je ne suis rien du tout. Je ne me sens pas bien. Et puis, Alors, je n'ai plus envie de prier d'un seul coup. J'avais envie avant et je n'ai plus envie de prier. » Et Si je vous parle des pensées coupables qui vous arrivent au moment où vous allez prier, ça vous arrive, ça vous transporte là toutes sortes de choses qui, des pensées coupables et vagabondes, une irritation. Ah oui, ça, c'est peut arriver. Hein. Quelque chose qui vous revient, ou peut-être votre mari, votre femme vient de vous dire quelque chose juste avant de prier. Attention, hein. Quelque chose qui vous a vexé. Et d'un seul coup, ça vous casse. Eh oui, tout simplement, le ressentiment qui monte dans votre cœur. Impression, et j'ajoute, impression bizarre. Vous étiez bien parti, puis d'un seul coup, vous avez là ce ressenti. Il est évident que parce que nous ressentons, le diable cherche à brouiller les cartes. Il cherche à vous décourager, mes frères et sœurs. Il cherche à vous culpabiliser en disant « c'est pas la peine de prier parce que tu sais, écoute, hein, là, dans le moment, dans l'heure avant, ou la semaine dernière, ou cette nuit, tu as eu toutes sortes de vagabondages, tu as eu toutes sortes de choses, alors tu sais, hein, tu peux rentrer chez toi, enfin, tu es déjà chez toi, mais enfin bon, tu peux plier maintenant tes bagages, c'est pas la peine de prier parce que le Seigneur va pas te recevoir. Ben, vous savez que le Seigneur nous reçoit quand on lui demande pardon. Il faut avoir le courage de le faire. Et si je reste sur mes impressions, alors à ce moment-là, mes impressions, parce que j'ai fait des fautes, parce que j'ai commis toutes sortes de choses, parce qu'il se passe du brouhaha à l'intérieur de moi-même, mais je ne prierai jamais, je ne mourrai jamais. Mes frères et sœurs, normalement le culte devrait être une explosion de louanges et d'adoration. Qu'est-ce qui vous empêche de louer et de bénir le Seigneur le dimanche matin? Qu'est-ce qui vous empêche d'élever votre voix le mardi soir? Ouais. Qu'est-ce qui vous empêche? Parce que vous pensez. Parce que vous ressentez, parce que vous avez toutes sortes de projections qui crépitent de tous les côtés, là. Vous êtes criblé par toutes sortes de choses en disant, bah non, Seigneur, non. Ah non, non, moi, je ne me sens pas. Hein, les autres, mais pas moi. Mais si tout le monde fait la même chose, parce que je voudrais dire que tout le monde ressent les mêmes choses, et même les pasteurs, hein, vous savez, on n'est pas comme, on n'est pas des extraterrestres. Hein. Eh oui, on est comme les autres. Moi, je ressens des choses. Je vis des choses. Il y a toutes sortes de projections sur ma personne. Et autrement, bah, écoutez, j'aurais dit ce matin, moi. Eh bien voilà, si quelqu'un veut prêcher à ma place, eh bien qu'il peut le faire. Ouais. Mais moi, je sais que mon devoir est de prêcher. Et je ne dois pas m'écouter. Hein. Combien de fois nous sommes arrivés à monter sur l'estrade dans des états, vous ne pouvez pas vous imaginer, mon épouse le sait, dans des états de déprime. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Et quand j'ai terminé de parler, ben, j'étais guéri. Si ça peut vous aider, mes frères et sœurs, hein, pour ouvrir la bouche. Peut-être pas tous vous demander de prêcher. Parce qu'autrement, s'il y a tout le monde sur l'estrade et qu'il n'y a plus personne dans les chaises... Ça va être quelque chose. Eh oui, le ressenti. Est-ce que je dois m'arrêter à tout ce que je ressens? Je ressens tellement de choses. On est imbibé dans un monde qui est impur, c'est vrai. Dans un monde qui tiraille dans tous les sens, c'est vrai. Mais écoutez, et pourtant le Seigneur a dit, je ne te prie pas de désôter du monde, mais de garder du mal. Alors, faut naviguer dans tout ça. Faut naviguer à l'extérieur, mais faut naviguer avec tous nos ressentis, tout ce que nous pensons à l'intérieur. Alors, devons-nous nous fier à nos états d'âme, à toutes ces sensations, et nous arrêter de prier, nous arrêter de louer, nous arrêter d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire des enfants de Dieu? On comprend qu'il y en a quand même qui décrochent quelquefois. Ils sont martelés, pilonnés, coupés en petits morceaux, et ils se disent, moi, la vie chrétienne, je ne peux pas supporter. Et c'est vrai qu'il ne faut pas donner trop de responsabilités à des gens. Ou alors, il faut que ce soit Dieu qui les mette en place. Parce que vous savez, la vie chrétienne, c'est un combat permanent. Et ce sera un combat encore beaucoup plus grand pour ceux qui ont une responsabilité, ceux qui prêchent la parole. Et je veux vous dire que si nous n'avons pas vu cela, eh bien, un jour ou l'autre, Dieu va exploiter notre orgueil et notre vanité, et il va nous débarrasser le terrain. Mais alors, séance tenante au moment où on ne s'y attend pas. Parce qu'il y a déjà un tel combat. Et si vous donnez encore une responsabilité supplémentaire, hein, c'est pour ça que Paul dit, ne confiez pas à un jeune converti la prédication de la parole. Parce que à ce moment-là, il est trop jeune et enflé d'orgueil, le diable, il va tomber dans les pièges du diable. Alors quelquefois on dit, ah oui, mais vous êtes trop sage, vous êtes trop prudent et tout ça. Mais moi, ce n'est pas prudent pour moi. Je suis prudent pour la personne que l'on appelle. Parce que je sais que c'est une personne qui a été sauvée et que malgré que finalement, si elle ne veut pas écouter les avis, elle va tomber. Ça, je le sais, on l'a déjà vu. Et c'est ce qui se passe. Et on en voit et on pleure dans certains cas. Les avis ont été donnés, les conseils ont été donnés, mais on y va quand même. Non, non, je suis plus fort que ceci, je suis plus fort que cela. Mais il y en a un qui l'attend, finalement, au virage et au tournant, et il est déjà candidat à se casser la figure, excusez-moi. C'est triste ça, mes frères et sœurs, c'est triste. Alors, qui va gagner? Qui va gagner dans cette bataille et dans cette lutte? L'apôtre Paul dit cette parole, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Et les desseins, c'est de nous faire tomber tous, et y compris ceux qui ont des responsabilités. C'est en suivant ces impressions qu'Ève est à péché, qu'Ève a péché en suivant ces expressions. Relisez Genèse chapitre 3 de 1 à 6, vous verrez qu'elle a commencé à entendre et puis qu'elle a entendu certaines choses qui étaient du mensonge, qui paraissaient pour être la vérité, qui étaient contradictoires avec ce que Dieu lui avait dit. Alors elle a bien pris le fruit, elle a dit « il est beau » parce qu'on lui avait dit qu'il était beau, qu'il était bon à manger parce qu'elle y a goûté. Et puis toutes sortes de choses comme ça, elle a fonctionné avec ses impressions, mais elle n'a pas fonctionné avec ce que Dieu lui a demandé, de rester sur les convictions. Dieu lui dit, tu ne toucheras pas ce fruit. C'est encore quand Daniel est en prière qu'il éprouve un immense malaise, qui le laisse sans vigueur. Vous connaissez le texte de Daniel, quand Dieu l'appelle pour la libération, la sortie de l'exil de Babylone. Écoutez simplement, il dit, je restais seul et je vis une grande vision. Et attention, quand on a de grandes visions, de grandes responsabilités, il y a aussi de grands combats. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et je fus décomposé. Je perdis toute vigueur, j'entendis le son de ses paroles, comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha, c'est celle du Seigneur, hein, naturellement. Une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place que tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Et lorsqu'il m'eut parlé, je me tins debout tout en tremblant. Mes frères et sœurs, ça c'est une réalité du combat spirituel. Combat extérieur, mais combat intérieur. Une réalité. Daniel, l'homme de Dieu, le bien-aimé de Dieu, qui reçoit les oracles de Dieu et qui va être un homme, qui va, eh bien là, permettre une grande réalisation de l'avenir de l'humanité, on peut dire, et de la venue du Messie, naturellement, avant le reste. Et il va être dans un état pas possible. On a vécu quelquefois ces choses terribles dans des combats spirituels. Et moi, je dis que le vrai jeûne, il est là, parce que vous n'avez pas envie de manger. Ce n'est pas un jeûne que j'ai déclaré, c'est un jeûne dans lequel je suis poussé par le Saint-Esprit. Et là, je peux vous dire, ça ne passe pas. On se tient, on ne peut pas faire autre chose que de prier et de pleurer devant Dieu. Ce n'est pas les jeûnes sur mesure sur lesquels on appuie sur un bouton, on décrète un jeûne. Ouais, non, non, mais il y a d'autres formes de jeûne. Et Daniel était là à jeûner, mais jeûner par la nécessité de sa mission et de ses responsabilités, naturellement. C'est quand Jésus, j'ai parlé de Daniel, mais c'est quand Jésus est en prière dans le désert, dit de la tentation, que Satan passe à l'offensive. Tentation physique, tentation morale et tentation spirituelle. Pourtant, Jésus priait et jeûnait à ce moment-là. Et je dirais même, si vous voulez, on peut le dire d'une autre manière, c'est parce qu'il priait et il jeûnait. À Gethsémané, ses impressions sur sa mort imminente, il les a reçues. Il nous a dit qu'il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il dira, mon âme est triste à mourir. C'est pas une impression, ça? C'était pas seulement une impression pour lui, mais ça allait être une réalité. Des impressions nocives et trompeuses peuvent prendre des allures de révélation divine. Je cite des exemples. Ce peut être des appréciations, des conseils parfois pertinents, mais non spirituels, qui sont donnés charitablement par d'autres chrétiens à des chrétiens qui sont dans la difficulté et qui viennent vous voir en disant « Moi, j'ai une parole du Seigneur, vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela. » Et bien moi, je réponds « Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. » Vous allez me dire, je suis assez radical. Mais écoutez, je ne le dis pas pour faire un discours ce matin. Je le dis parce que il y a des nécessités dans notre monde. Il y a des nécessités dans l'Église. Et il y a des nécessités de dire certaines choses dans le temps qui va venir. Vous savez qu'il nous a dit qu'il va y avoir un souffle qui va venir jusqu'à séduire les élus. Attention. Fût-ce même la parole d'un pasteur. Ouais. C'est dit charitablement, Parce que avoir des convictions pour les autres, moi je suis très dubitatif sur les origines. Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, le Seigneur m'a montré pour toi, etc., etc. Mes frères et sœurs, surtout, vérifiez, ne vous précipitez jamais. Ça peut être des vérités, ça peut être vrai, ça peut venir du Seigneur, mais à côté de ça, ça peut venir d'ailleurs. Ce peut être aussi des événements, alors c'est pas dit, mais ce sont des choses qui se passent. Ce peut être des événements, des conditions, des circonstances apparemment providentielles et très plausibles que concordent parfois même avec l'Écriture et les promesses. Il y a des conjonctions de situations. On se dit, ben voilà, le Seigneur m'ouvre la porte parce que voilà, c'est comme ça. Il y en a une qui s'est réalisée hier formidablement. Concours de circonstances. Toute la semaine, il a fait un temps exécrable. On a prié. Ah, formidable. Et on se disait, qu'est-ce qu'on fait? On mange dedans ou on mange dehors? Un petit rayon de soleil, et voilà. Élie a attendu la pluie, nous on a attendu le beau temps, et on en a profité. Non, mais ça c'est un petit clin d'œil que je fais au passage. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais bon, ça c'est comme ça. Mais quelquefois, il y a des choses en disant, ben voilà, tout est en alignement, ça doit être ça. Et on s'est aperçu que finalement, c'était pas ça du tout. Quand on est chrétien mature, on ne doit pas, quand on est jeune chrétien, je le dis, que l'on fasse la toison de Gédéon, d'accord. Parce que si vous regardez bien le contexte de Gédéon, il était tout jeune, il était tremblant, il avait peur de tout, etc., etc. Il avait besoin parce qu'il avait une grande mission à accomplir. D'accord pour Gédéon, je suis d'accord. Mais qu'un frère ou une sœur me dise, après 30 ans, 40 ans ou 50 ans, ah ben moi je pose encore des toisons, je me dis, il y a quelque chose qui a manqué dans la foi. Il y a quelque chose, parce qu'on ne doit pas maintenant fonctionner après un long temps de vie chrétienne avec ce que l'on voit, mais avec ce que l'on croit, avec des convictions dans notre cœur. Parce qu'Abraham, il a peut-être commencé avec ceci et cela, mais Abraham, à la fin de sa vie, c'était un homme qui a été appelé le père des croyants, parce qu'il ne marchait plus avec des signes. Bien. Il marchait dans la foi et dans l'obéissance. L'obéissance et la foi, tout simplement. Première conclusion. Le chrétien qui prend pour argent comptant ses sensations et ses impressions personnelles, sans les critiquer. Ah ouais, on nous a dit qu'il ne fallait pas critiquer. Alors, vous ne critiquez pas les autres, mais vous critiquez vous-même. C'est déjà quelque chose. Non, on est d'accord. Parce que la critique est facile pour les autres, mais quelquefois on ne sait pas, on est très indulgent avec soi-même. Donc, il faut savoir s'auto-critiquer, on peut dire les choses comme ça, par une réflexion. Eh bien, celui qui ne sait pas cela est vulnérable au piège de l'adversaire. Ainsi, le chrétien sensitif se veut alors obligé, et ça devient une tyrannie dans son âme et dans son cœur, de mettre à exécution la moindre de ses impressions, de ses pressentiments, allant parfois jusqu'à l'obsession, même si celles-ci sont ridicules ou comportent des exigences démesurées. On a vu quelquefois des frères et des sœurs qui sont partis de travers parce qu'ils ont reçu une parole. Et ils se sont dit, ça ne peut être que ça, c'est comme cela. Et ils ont été amenés à faire des choses, à dire des choses, à se mettre dans des états de choses, dans des comportements qui étaient aux yeux des autres, eh bien, un discrédit de l'Évangile qui était les tenants pour finalement eh bien confesser. C'est ce qui fait qu'ils n'étaient plus dans une église, ils étaient partis dans des sectes. Voilà. Parce que dans une secte, on fait n'importe quoi. On suit un gourou, on suit quelqu'un qui va vous donner ce qu'il faut faire, etc., etc. Eh bien, moi, je veux que, quoi qu'il en soit, nos églises ne soient pas des sectes, mais soient véritablement sous l'autorité de Dieu, du Saint-Esprit, de Jésus-Christ. Et c'est pas moi que vous suivez, c'est pas les uns et les autres, c'est le Seigneur et le Saint-Esprit, et sa parole. Et ça, c'est important. Autrement, je ne suis plus pasteur. D'ailleurs, je suis bientôt à la retraite. Enfin, il paraît qu'on est encore pasteur après la retraite. Je ne suis pas sorti, alors. Vous n'avez pas fini avec moi. Donc, c'est cela la question. Je vous parle franchement, vous connaissez maintenant. Si on marche avec des pressentiments, des impressions, ça peut devenir obsessionnel. Et on a vu quelquefois des frères et des sœurs qui étaient complètement déboussolés en disant, bah oui, mais il n'y a que ça qui compte, et ceci et cela. Et dans la pratique, eh bien, ils sont allés dans des chemins qui étaient complètement des chemins de traverse. Alors, s'il n'obtempère pas à la vie de l'esprit qui essaie de le retenir en disant « mais ça c'est faux », alors il va avoir des conflits avec sa confiance, avec sa conscience, pardon. Parce que sa confiance va lui reprocher, elle va lui dire « mais je t'ai donné ce message et tu dois le faire et ceci et cela ». Et il va être un homme divisé, il ne sera pas en paix, il sera toujours en conflit avec lui-même. Il dira qu'il a été poussé par une petite voix intérieure, les petites voix qui nous poussent. On a deux oreilles, hein. Ah, il y a une contradiction, là. Ouais. Ah, j'ai une petite voix intérieure. Eh bien, écoutez, hein. Moi, je crois que le Saint-Esprit est capable de nous dire ce qu'il a à nous dire, sans parler de petite voix et tout ça. Jeanne d'Arc avait aussi une petite voix. Alors, si vous voulez bouter les Anglais de France, c'est le moment, il y en a un. Hein. C'est les vacances. Les petites voix intérieures. Qui lui souffle, fait ceci, fait cela, et le prive de sa faculté de jugement et de raisonnement. Mes frères et mes sœurs, vous avez un jugement et vous avez un raisonnement, eh bien, il ne faut pas vous laisser prendre par l'adversaire. Et ni par personne, d'ailleurs. Parce que ça fait partie de la grandeur de l'œuvre de Dieu qu'il fait dans chacun d'entre nous et de la dignité d'homme que nous avons. Je dis non, on n'est pas manipulable. Jugement et raisonnement. Je termine. Vous avez entendu parler de John Wesley, fondateur du méthodisme en Angleterre, réveil du 18e siècle, me semble-t-il, oui, 18e. Alors John Wesley, il a écrit ces paroles. C'est pas qu'ils m'ont influencé, mais j'ai dit, il a dit vrai. Il a dit ces paroles, « Ne vous hâtez pas d'attribuer quelque chose à Dieu. » Ce sera toujours temps. « Ne vous hâtez pas d'attribuer quelque chose à Dieu. » Ne supposez pas trop vite que des rêves, des voix, des impressions, des visions, des révélations viennent de Dieu. Elles viennent parfois de lui, du Seigneur. Elles viennent aussi de la nature des choses, de la nature aussi de la vie. Elles viennent également de l'adversaire qui interfère à la fois sur la voie de Dieu, sur la voie de notre raison qui est prise en sous-main par le Saint-Esprit pour essayer de mélanger les cartes. Ne croyez pas, dit-il, ne croyez pas tout esprit, parce que c'est de la crédulité. C'est de la crédulité, mais vérifiez si les esprits viennent de Dieu. Et c'est pour cela qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens, jugez de toutes choses, retenez ce qui est bien et rejetez ce qui est mal. On est d'accord ? Eh oui, mais c'est comme ça qu'on devient mature, c'est comme ça qu'on devient un homme et une femme de Dieu. Parce que nous avons un jugement, et un jugement qui doit être non pas formaté par le contexte, non pas parce que nous sommes là, eh bien, à suivre en alignement, c'est comme ça. Non. On est des hommes et des femmes où nous avons une relation personnelle avec le Seigneur et c'est le Seigneur qui nous conduit. Et si c'est le Seigneur qui nous conduit, il va nous unir, il ne va pas nous diviser. Parce que lui, ce n'est pas la division, c'est l'union. Et même si nous sommes d'un avis différent, eh bien nous aimerons malgré tout cela. Et nous accepterons malgré tout cela. Nous avons la responsabilité, je termine, nous avons la responsabilité de vérifier et d'éprouver toutes choses à la lumière de l'Écriture sainte, à la lumière du Saint-Esprit que nous lui demandons de nous éclairer. Hein. Il est lumière, le Saint-Esprit, on l'a chanté tout à l'heure. Et ça sera un signe de maturité spirituelle. Paul écrivait, il l'a écrit souvent, quand il dit « mais je prie pour vous », il parlait aux Philippiens, il parlait aux Éphésiens, « je prie pour vous que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez, que vous ayez la connaissance, que vous ayez la conviction, que vous ayez l'affermissement à l'intérieur de vous-même. » Parce que agir sans recul, c'est-à-dire, populairement, sauter sur tout ce qui bouge, agir sans recul, c'est prendre le risque de se fourvoyer soi-même, c'est donner l'occasion au diable de nous vaincre. Et non seulement nous allons nous fourvoyer nous-mêmes, mais si nous sommes un petit peu persuasifs dans nos idées bizarroïdes, c'est que nous allons entraîner d'autres. Et on n'a pas le droit d'entraîner d'autres. Que quelqu'un veuille s'engager dans un chemin qui est le sien, qu'il a choisi, qu'il croit être le bon, c'est son problème. Mais à partir du moment où on entraîne les autres, on devient véritablement... Qu'est-ce que je vais dire ? qu'est-ce que je vais dire ? On devient quelque part le meurtrier spirituel de notre frère et de notre sœur. Ouais. Parce que c'est pas moi qui ai sauvé. C'est pas moi qui ai sauvé mes frères et mes sœurs. C'est Christ qui a donné sa vie et on n'a pas le droit de toucher à la vie de quiconque. Ça, c'est important. On vit des choses assez bizarres en ce moment. Ceux qui veulent faire un petit peu leur affaire de droite et de gauche, là. Ouais. Eh bien, moi, je vous dis que... Moi, je tire mon chapeau, j'en ai pas, mais je le tire quand même, c'est virtuel. Hein. Bon. Je tire mon chapeau à ceux qui disent, eh bien voilà, moi je vais dans telle ville, je fais un travail de pionnier, un travail d'évangélisateur. Moi je dis bravo, parce que c'est comme ça qu'on commence. Mais c'est pas quand on va chercher les chrétiens des églises des autres pour monter son église. Pas du tout. Pas du tout, mes frères et sœurs. Parce que si on veut travailler, on peut travailler. On m'a appris, quand on nous a plantés à Cholet, on nous a dit, mais maintenant tu vas dans le terrain, il n'y avait personne. Et je sais qu'on m'a dit, de toute façon, tu ne peux rien détruire, il n'y a rien. Eh, c'était... Ah, ça a duré 25 ans, hein. Eh oui, 25 ans. On y a passé toute notre vie et notre jeunesse. Enfin, pas notre vie, mais notre jeunesse. Eh oui, mais merci Seigneur, parce que ça nous a appris des drôles de choses, hein, je peux vous le dire. Eh bien, c'est bien, merci Seigneur. Et moi, aujourd'hui, je bénis Seigneur, et je bénis ceux aussi, Seigneur, qui m'ont mis dans cette situation. Mais pas aller dans l'aquarium des autres. Je suis un aquariophile, vous le savez. Alors, c'est donner l'occasion au diable de nous vaincre. Dans Romains, parce que depuis le temps que je vous dis que je vais m'arrêter, je vais finir par m'arrêter. Romains 12, chapitre 2. 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et dans le livre des Proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors que ce ne soit pas les sources de la mort, mais les sources de la vie. La prochaine fois, si vous voulez, parce que j'ai encore des choses à dire, hein. Si vous le permettez, la prochaine fois, nous verrons 6 critères autour de cette question. Sentiments et impressions sont-elles conformes ? Mes sentiments et mes impressions sont-elles conformes à l'Écriture sainte ? Deuxième point, est-ce que mes sentiments et mes impressions sont en accord avec ce qui est juste ? Est-ce que mes sentiments et mes impressions rentrent-ils dans le plan de Dieu ? Troisième, quatrième, est-ce que mes sentiments et mes impressions restent-ils dans le bon sens et la raison ? Et que ce ne soit pas un contre-témoignage. Quelque chose qui devienne, eh bien là, ridicule. Et quelquefois, la religion n'a pas toujours montré le bon sens, hein, et le comportement même parfois des enfants de Dieu. Est-ce que ça reste dans le bon sens et la raison ? Est-ce que mes sentiments et mes impressions me conduisent-ils à un comportement instinctif, tel que la colère ? Et sentiment, impression. Je reçois certaines choses et moi j'ai envie de... Je n'ai fait que le geste. Hein. Puis dernier point, sentiment et impression naissent-ils d'un désir vaniteux qui serait produit par l'orgueil ? Alors on verra ça une autre fois, je vais vous laisser reposer maintenant. Hein, vous allez réfléchir à tout cela. Mais toujours est-il que c'est important, mes frères et sœurs, parce qu'on travaille à la maturité de l'Église. Et vous êtes des hommes et des femmes qui ont été choisis par Dieu, des enfants de Dieu, et on doit grandir. On doit grandir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne sa grâce. Et on va invoquer son nom simplement. Je vais demander à Patrick, si tu veux bien élever ta voix, et que Dieu bénisse la parole au fond de nos cœurs. Et parole semée, parole germée.
Seigneur, que nous fait du bien, Seigneur. Et voyons là encore tout le désir de nous aider.